Voilà, alors l'année dernière, bon, j'ai commencé avec des chaises, je ne sais pas si ça répond à un besoin, j'espère en tout cas. Ce que j'ai souhaité faire, donc je vais redire brièvement un peu le parcours qu'on a fait durant l'année dernière. Dans les premières rencontres, j'ai voulu d'abord redire ce qu'était une paroisse. Et j'ai souhaité montrer qu'une paroisse était dans la continuité de la première communauté chrétienne qui est décrite dans les Actes des Apôtres. Et on voit déjà à travers ça combien c'est important de connaître la parole de Dieu et de connaître particulièrement le livre des Actes des Apôtres pour voir ce qui à la fois nous fait proche de cette première communauté, puisque nous sommes dans cette continuité, et en même temps ce qui nous sépare de cette communauté, c'est-à-dire les points, les espaces où nous aurions, nous, à changer, à nous convertir, à vivre des choses, des étapes de conversion. Et puis, j'ai aussi montré que, bien évidemment, la communauté paroissiale, c'est une communauté parmi des milliers, et que nous sommes en communion avec la première communauté primitive, mais avec aussi l'Église universelle, car l'Église universelle, c'est la continuité de la communauté primitive. Et cette Église universelle, donc c'est notre lien avec l'évêque au niveau de notre diocèse, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul sur un territoire donné, et puis avec le successeur de Pierre à Rome, ce qui forme la communauté universelle. J'ai passé sous silence la question des divisions entre chrétiens, qui est un problème très très lourd et très grave, puisque c'est un obstacle majeur à l'évangélisation. Mais déjà, à l'annonce de la parole de Dieu auprès des gens aujourd'hui. Mais déjà, si nous arrivons, nous, à faire l'unité au sein de nos communautés, ce sera déjà énorme, un pas important. Ensuite, dans d'autres catéchèses, j'ai voulu montrer qu'est-ce qu'était la liturgie. On s'est demandé ce qu'était la liturgie, parce que j'avais fait quelques modifications déjà au niveau de la paroisse, et puis des questions commençaient à venir. Alors, qu'est-ce qu'est la liturgie? Et puis, je me suis référé tout simplement au Concile Vatican II, qui a été le premier texte du magistère important, même s'il y a eu une encyclique avant. Mais quand même, c'est le premier texte du magistère qui a donné un peu une définition de la liturgie. Et j'ai redit à cette occasion-là que la liturgie, donc le paragraphe 7 de Sacrosanctum Concilium, et ceux qui étaient là, je leur ai donné le papier, dit que la liturgie, c'est l'œuvre, c'est l'action sacerdotale du Christ qui continue. C'est-à-dire qu'en fait, dans la liturgie, c'est pas nous qui faisons un temps de prière. C'est le Christ qui agit, c'est Dieu qui agit, c'est une œuvre de Dieu d'abord. Et dans la liturgie, on est rendu présent de toute la vie de Jésus, et en particulier de sa mort et de sa résurrection. Et donc, c'est un aspect important que de découvrir que dans la liturgie, c'est avant tout quelque chose qu'on reçoit de Dieu comme un don, plus que quelque chose qu'on se construit nous-mêmes. Pourtant, la liturgie reste ça reste l'œuvre d'une communauté particulière qui est donc la communauté présente ici telle qu'elle est, qui prie, et donc chaque liturgie va être différente en fonction des communautés, puisque les gens sont différents, les communautés sont différentes. Mais c'est quand même reçu de Dieu à travers son Église. Hein, donc la liturgie reste quelque chose que l'on reçoit avant tout, et dans lequel on se glisse, dans lequel on se donne, et le principal acteur de la liturgie, c'est le Christ, ce qui explique pourquoi, dans l'Église catholique et dans l'Église orthodoxe, il y a des ministres ordonnés qui sont là toujours, qu'on ne choisit pas, qui viennent de l'extérieur, qui sont là comme pour nous dire, eh bien, c'est pas nous qui nous faisons notre religion, notre prière et tout ça, c'est le Christ qui agit au milieu de nous. Et le ministre ordonné comme un vis-à-vis pour rappeler cela, non pas par ses mérites, mais simplement parce que Dieu l'a appelé, puis on l'a ordonné il a reçu la grâce sacramentelle de l'ordination pour cela. Mais sinon, il n'a aucun mérite particulier. Donc voilà. Ensuite, je me suis demandé quelle liturgie il fallait avoir dans nos paroisses aujourd'hui. Alors là, bien sûr, il y avait un. C'était un point très délicat en se posant cette question-là. Pour les paroisses, la liturgie, si on veut que ce soit une liturgie qui rassemble, malheureusement, ce n'est pas toujours simple, eh bien, il faut que ce soit la liturgie que l'Église nous donne. Il faut qu'on prenne tel que les livres, tel que l'Église nous propose la liturgie, il faut s'y tenir, puisque c'est une forme d'objectivité de la liturgie. C'est-à-dire, ben voilà, le point commun, c'est qu'on se retrouve autour du Christ et autour de son Église. C'est l'Église qui nous guide. Et donc, pour savoir quelle liturgie pour aujourd'hui, il faut faire ce que l'Église nous demande, tout simplement, à travers ses livres. Et puis, il faut une liturgie qui soit belle, qui soit populaire, c'est-à-dire qui appartienne au peuple, hein, qui parle au peuple, aux gens simples, et pas une liturgie d'intellectuel, pas une liturgie trop bavarde. C'est une des caractéristiques de la liturgie Paul VI, c'est comme on comprend tout, on est très très bavard, beaucoup plus qu'autrefois, où il y avait des grands temps de silence. Et donc, il ne faut pas qu'elle soit trop bavarde, elle soit priante, et qu'elle se situe dans la continuité de la liturgie depuis 2000 ans, depuis la Sainte Cène jusqu'à aujourd'hui. Voilà, la liturgie rend présent le mystère pascal, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus et la Sainte Cène, c'est-à-dire à chaque liturgie, en particulier au moment de l'Eucharistie, on vit cet événement majeur de l'histoire de l'humanité, qui a transformé l'histoire de l'humanité, qui fait que du petit groupe qu'il y avait à l'époque, aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde et 1 milliard 200 millions de catholiques. Ce qui était une cause, ça devrait être une cause d'ailleurs d'action de grâce. Même si il faut encore évangéliser, puisque. Voilà. Ensuite, la dernière catéchèse, j'ai traité sur la messe, mais c'est très très rapide, sur l'importance de l'Eucharistie et sa signification. Alors, comme dans la messe, il y a tout, hein, il y a le résumé de notre foi, ça reste un peu difficile. Mais je me suis basé pour cela sur l'encyclique de Jean-Paul II, L'Église vit de l'Eucharistie, qui est sortie en 2003, donc très peu de temps avant sa mort, hein, c'est la dernière encyclique, une encyclique où il reprend un peu tous les grands thèmes tous les grands thèmes que signifie l'Eucharistie, les grands thèmes traditionnels en fait. Il n'invente pas grand-chose, il n'invente rien. Il n'invente rien, il se situe, il redit les choses. Alors, certains ont été surpris, mais tiens, on redit des choses du Moyen-Âge, tout ça. Mais pour nous, c'est normal que ce que l'on croit aujourd'hui soit ce que l'on croit, ce que l'Esprit-Saint a montré à l'Église durant toute l'histoire, et aussi ce qui est dit dans l'Écriture sainte. Alors, donc le Saint-Père nous a rappelé un certain nombre de points. C'est ce que j'ai dit, et j'ai laissé simplement un chapitre pour aujourd'hui. C'est celui que je vais vous parler dans un instant. Mais sinon, il nous a rappelé, et je le redis brièvement, que l'Eucharistie est le trésor de l'Église et le don par excellence. C'est le mystère central de notre foi, c'est au cœur de notre vie chrétienne, non pas pour exclure le reste de la vie, mais pour mieux vivre notre vie chrétienne. L'Eucharistie est là pour nous aider à bien vivre notre vie chrétienne. Mais c'est au cœur, et c'est le trésor de l'Église, d'où le fait que l'Église a pu gaspiller et doit encore aujourd'hui savoir gaspiller pour l'Eucharistie. Pourquoi ? Parce que Dieu se donne lui-même dans l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grand que l'Eucharistie. Non seulement on reçoit la grâce, mais là Dieu se donne lui-même et on revit les mystères de la mort et de la résurrection de Jésus. Il nous a rappelé aussi que si l'Église fait l'Eucharistie, hein, s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'Eucharistie, quand il n'y a pas de communauté chrétienne dans un lieu, il n'y a pas d'Eucharistie. Si l'Église fait l'Eucharistie, c'est l'Eucharistie qui construit l'Église. Et ça, c'est quelque chose d'assez mystérieux, mais de très important, de réaliser que l'Eucharistie est quelque chose qui transforme notre cœur et transforme nos communautés au point de les faire. Et c'est vrai que dans une communauté chrétienne où peu de gens sont pratiquants, c'est un peu le cas dans nos, dans nos, dans nos régions, puisque je ne sais plus combien il y a de pourcentage de catholiques, mais un très petit pourcentage de pratiques, ça a un effet sur la construction même de l'Église. Hein, il y a des crises qui peuvent être liées simplement au fait qu'aujourd'hui, beaucoup ne ressentent plus le besoin de recourir, de puiser dans le mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie construit l'Église. Voilà. L'Eucharistie nous aide, nous permet de recevoir abondamment l'amour de Dieu, hein, puisqu'il y a, tout dans l'Eucharistie, et surtout l'amour de Dieu, le Christ qui se donne lui-même, comme si on était encore au pied de la croix au moment de sa mort. Et aussi, l'Eucharistie nous aide à répondre à l'amour de Dieu. C'est-à-dire que non seulement on reçoit l'amour de Dieu, mais ensuite on peut répondre à l'amour de Dieu par notre propre amour. C'est-à-dire que c'est une invitation de Dieu. Et quand à chaque fois que nous disons Amen, eh bien, c'est une réponse qui ensuite doit se concrétiser dans notre vie. Puisque le but de la vie chrétienne, c'est de faire de notre vie une messe, une Eucharistie. Parce que dans le don total de nous-mêmes à Dieu, c'est la meilleure réponse et c'est la réponse première du chrétien vis-à-vis de Dieu. Dieu nous a tant aimés que nous, en retour, on l'aime jusqu'à donner complètement notre vie, à lui faire une totale confiance. Voilà. Donc c'est ce à quoi nous sommes invités, et c'est ça la fonction sacerdotale du baptisé. Parce que le baptisé, la fonction sacerdotale, c'est de pouvoir vraiment offrir toute sa vie au Christ, donner sa vie au Christ. Voilà, l'Eucharistie, je l'ai déjà dit, rend présent le sacrifice de la croix et de la résurrection. L'Eucharistie aussi nous rappelle que Jésus est mort pour chacun de nous, personnellement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un souvenir pas très lointain de la mort de Jésus, mais parce que l'Eucharistie va être encore célébrée aujourd'hui, pour nous aujourd'hui qui sommes encore sur terre, pour aujourd'hui, il nous est rappelé que le Christ est mort pour chacun de nous, pour chaque instant de notre vie, pour nous sauver individuellement. Et quand on communie, quand on reçoit la Sainte Communion, eh bien, c'est aussi Jésus qui nous dit, c'est pour toi aussi que je suis mort personnellement. S'il y en avait un à sauver, et si c'était toi, je l'aurais fait. Donc l'Eucharistie est importante aussi pour nous rappeler cette réalité-là de l'amour infini de Dieu. L'Eucharistie est une action de grâce. C'est d'abord une action de grâce. On remercie Dieu de nous avoir sauvés. On remercie Dieu d'être venu vers nous. On remercie Dieu de nous avoir créés. On remercie Dieu de s'occuper de nous. On remercie Dieu de nous accompagner tous les jours de notre vie. C'est d'abord une action de grâce, d'où l'importance du chant dans l'Eucharistie et l'importance de l'attitude de notre cœur qui ne doit pas... Dans l'Eucharistie, il faut prendre conscience qu'on est là pour dire merci. Et on va recevoir, déjà pour ce qu'on va recevoir, ce qu'on a reçu et ce qu'on va recevoir plus tard. L'importance de dire merci, c'est pas toujours très facile. Voilà. L'Eucharistie a une dimension cosmique et universelle, c'est-à-dire que c'est le monde entier qui est impliqué dans l'Eucharistie. Toute la nature elle-même est impliquée dans l'Eucharistie. Hein, c'est saint Paul qui le dit, que la nature aspire à être transformée. La nature, mais aussi... toutes les Eucharisties ne sont pas des Eucharisties les unes à côté des autres, comme par exemple ce dimanche, il va y avoir des milliers d'Eucharisties dans le monde. Et donc, ce n'est pas plein d'Eucharisties les unes à côté des autres, mais ça forme un tout, une unique Eucharistie. Elles sont liées, unies les unes aux autres, et unies à la mort et la résurrection de Jésus. Hein, donc, ça forme un ensemble universel au niveau de l'espace, c'est-à-dire toutes les Eucharisties nous rassemblent, ce qui fait qu'on est tous frères en tant que chrétiens, et en même temps aussi au niveau du temps, c'est-à-dire l'Eucharistie d'hier et l'Eucharistie d'avant-hier et l'Eucharistie d'il y a 2000 ans, jusqu'à la Sainte Cène, la mort et la résurrection de Jésus, tout ça, ça forme une unité. Donc l'Eucharistie dépasse complètement notre petite dimension de vie sur Terre. Voilà. Enfin, la dimension... L'Eucharistie porte une dimension, ce qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire que dans l'Eucharistie, le ciel s'ouvre. C'est-à-dire Dieu, qui est inaccessible naturellement, on va dire, devient accessible parce que Dieu l'a décidé ainsi. Et l'Eucharistie est le lieu où on réalise davantage que le ciel s'ouvre. que Dieu se fait très proche. Quand on communie au corps du Christ, on ne communie pas qu'à un homme, on communie à Dieu lui-même. Donc c'est quand même quelque chose de très très fort. Nos églises sont là pour manifester aussi cette dimension eschatologique à travers la décoration, à travers les statues de ceux qui nous ont précédés, la mémoire des défunts, etc., nous rappelle justement que l'Eucharistie ouvre une réalité du ciel et qui nous prépare quelque part à aller aussi au ciel. Quand on chante le Sanctus, hein, Saint, 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 au moment, à la fin de la préface, eh bien, ce Sanctus qui est tiré du livre d'Isaïe, eh bien, c'est les anges qui le chantent. Et donc nous, on s'unit aux anges. D'ailleurs, on le dit, le prêtre le dit juste avant, hein, unis aux anges. Donc ça montre bien que le ciel s'ouvre pour nous. Il y a une réalité qui nous dépasse, qui se manifeste à nous dans l'Eucharistie. Alors ce serait bien que nos liturgies le manifestent toujours plus. Enfin, l'Eucharistie nous donne la présence réelle de Dieu. Hein, donc là, je l'ai un petit peu dit, mais c'est vrai que Dieu se donne dans l'Eucharistie et ça reste quelque chose de difficile à accueillir. C'est peut-être un des éléments de notre foi les plus difficiles. Moi, je rencontre beaucoup de chrétiens qui ont du mal à croire que vraiment la présence réelle, la présence du Christ, homme et Dieu, dans le pain, est une réalité forte. C'est-à-dire que le pain et le vin restent extérieurement identiques, mais ce n'est que l'extérieur, c'est que l'apparence. La réalité est changée. Et ça, c'est quelque chose, il y a une véritable transformation qui se passe. Et cette présence-là, c'est un cadeau de Dieu qui exprime son amour, mais ce qui reste, on se demande pourquoi il a voulu aller si loin. Il aurait pu arrêter avant. D'ailleurs, nos frères protestants considèrent que c'est tout à fait suffisant de penser qu'on est dans l'ordre du symbole, simplement. Et donc, voilà, on peut très bien vivre en chrétien avec un symbole de ce type-là. Mais notre foi catholique et les orthodoxes sont comme nous. Nous croyons que Dieu a voulu aller très très loin. Et si nous réalisions davantage cela, peut-être que notre cœur en serait troublé. Enfin, le curé d'Ars disait qu'on en mourrait. Donc, voilà. Et puis, l'Eucharistie forme notre communion ecclésiale au-delà de nos opinions. C'est-à-dire que si on se dit chrétien, c'est pas parce qu'on pense tous pareil, mais c'est parce que le Christ nous rassemble. C'est la foi à Jésus-Christ qui nous unit. C'est pas autre chose. Il n'y a pas besoin d'autre chose. C'est la foi au Christ. Et donc, dans l'Eucharistie, quand on communie, quand on célèbre l'Eucharistie, la messe, et qu'on communie au corps du Christ, eh bien, mystérieusement, nous sommes unis les uns aux autres, au-delà de nos opinions, de nos affinités, de tout ça. Et après, reste à nous de le vivre concrètement dans notre vie. Hein. C'est-à-dire qu'après, il faut laisser faire la présence de Dieu dans notre vie pour que ça change quelque chose dans notre vie. Mais c'est important de réaliser que nous avons besoin que cette réalité se réalise avant nous et que nous avons ensuite simplement invité à le manifester dans notre vie. Alors, donc je vais terminer, puisque je vais terminer par le passage que je n'ai pas traité à la dernière catéchèse, qui est le chapitre 7 de l'encyclique du pape Jean-Paul II, l'Église vit de l'Eucharistie, où là Jean-Paul II a ajouté un élément qui n'avait jamais été donné comme texte qu'on appelle du magistère, c'est-à-dire texte important pour nous, chrétiens, pour nous enseigner. Et ce chapitre 7 s'appelle « À l'école de Marie, la femme eucharistique ». Et le pape Jean-Paul II a fait donc tout un chapitre qui a surpris les théologiens, tout un chapitre pour expliquer comment l'Eucharistie, pour bien la saisir, pour bien la vivre et pour en vivre dans notre vie, puisque le but c'est quand même cela, eh bien il fallait la vivre avec Marie. Marie est celle qui a vécu parfaitement le mystère de l'Eucharistie. Déjà parce que Marie a fait de toute sa vie une Eucharistie. C'est-à-dire que le but de l'Eucharistie, c'est de transformer notre vie pour que nous nous offrions à Dieu en nous offrant à nos frères, dans une confiance absolue en Dieu, qui fait qu'on peut faire aussi confiance à nos frères, même quand ils ne sont pas fiables. Eh bien, Marie l'a vécu parfaitement. elle a fait une confiance absolue en Dieu et elle s'est offerte totalement à Dieu et à ses frères. Et puis, pour bien appuyer le fait qu'il faut vivre l'Eucharistie avec Marie, eh bien, le Saint-Père rappelle que dans l'Eucharistie, on est rendu présent à la mort de Jésus, et qu'à la mort de Jésus, dans l'évangile de Jean, Marie est là debout au pied de la croix. Donc à chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, Marie est là debout dans le mystère de la croix, et que Jésus dit à Saint Jean, « Voici ta mère ». Et que l'Église a toujours compris, l'Église catholique au moins, et orthodoxe, a toujours compris que quand Jésus disait « Voici ta mère » à Saint Jean, il le dit à chacun de nous. Saint Jean, c'est l'exemple, c'est l'Église. Donc il confie Marie à chacun, comme notre mère, et ensuite il dit à Marie, voici ton fils. Et donc, que c'est un élément important pour comprendre que nous avons besoin de Marie pour bien vivre l'Eucharistie. L'Eucharistie est un grand mystère de la foi, on l'a dit, on le saisit un petit peu, on dit au cœur même de l'Eucharistie, autrefois c'était au moment de la consécration, le prêtre disait « Mysterium Fidei » au moment où il consacrait le calice, il disait « Mystère de la foi », comme s'il s'arrêtait et puis il disait « Mystère de la foi », ce n'était pas une parole qui était dans la Bible, il disait « Mystère de la foi », et puis il continue les paroles de Jésus. Et depuis le concile, ça a été déplacé, ça a été mis après pour que les fidèles puissent réagir. Donc on dit, après la consécration, après l'élévation, on dit « Il est grand le mystère de la foi ». C'est-à-dire que le prêtre, il dit « Il est grand ». Normalement, le prêtre, il doit le dire à chaque fois. Bon, ben, on le dit plus ou moins, parce que je ne chante pas très bien, mais « Il est grand le mystère de la foi ». Et les fidèles disent, ils redisent leur foi. Comme pour dire « Oui, c'est vrai », ils redisent à cette occasion-là leur foi. Il est tellement grand le mystère de la foi qu'il demande, par rapport à l'Eucharistie, un abandon, je cite Jean-Paul II, un abandon le plus pur à la parole de Dieu. Il faut une confiance absolue dans la parole de Dieu. Quand Jésus dit « Faites cela en mémoire de moi, ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi », il faut un abandon total. Et c'est vraiment, c'est Marie qui l'a vécu d'une façon parfaite, cet abandon. Et donc c'est à son école qu'il nous faut vivre l'abandon dans l'Eucharistie. L'abandon à la parole de Dieu et l'abandon dans ce qui se vit dans l'Eucharistie. L'abandon dans la confiance dans l'œuvre de Dieu qui se réalise dans l'Eucharistie, qui nous dépasse totalement. Marie aussi, dans l'Évangile de Luc, il nous est dit qu'elle méditait tout cela dans son cœur. Tous les événements, elle les méditait dans son cœur. Mais de la même manière, nous, que le mystère de l'Eucharistie, la parole de Dieu que nous entendons à la messe ou que nous lisons, nous sommes invités avec Marie à méditer cela dans notre cœur, sinon on passe à côté. On vit les choses en superficialité. Alors on médite dans son cœur comme on peut. Ensuite, il y a le oui de Marie. Le oui de Marie. Marie, elle ne sait pas ce qui va se passer vraiment quand l'ange vient la voir. Et pourtant, elle dit oui, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce oui-là rejoint notre oui personnel et notre amen personnel à chaque Eucharistie. On dit plein d'amen dans la célébration de l'Eucharistie. C'est pour dire, oui, j'ai confiance en toi, qu'il me soit fait selon ta parole. Même si on a la trouille. Marie, je ne suis pas sûr qu'elle était complètement... elle était dans l'action de grâce, mais ce n'est pas sûr qu'elle n'avait pas, elle ne pouvait pas avoir une certaine crainte par rapport à ce qui pouvait lui advenir. Et il y a le mystère de la croix qui est présent. Son fils n'avait que 30 ans, 33 ans. Je ne pense pas qu'aucune mère ici aurait souhaité vivre ça. Accusé comme malfaiteur, mort après des souffrances atroces, etc. On ne va pas refaire le mystère de la Passion. Marie dit aussi à Cana, il dit, faites tout ce qu'il vous dira au serviteur. Et on se souvient qu'à Cana, ce que Jésus dit au serviteur est absolument aberrant, puisque des cuves d'ablution, c'est-à-dire des cuves où on se lavait les pieds et tout ça, on se purifiait, eh bien, Jésus dit « Remplissez-les d'eau et allez servir avec cette eau-là. » Les cuves d'ablution, pas normal. C'est absolument aberrant. Et pourtant, il y a une invitation à « Faites tout ce qu'il vous dira ». Cette invitation-là, ils vont la mettre en pratique et ils auront le meilleur vin qui soit. Et bien, c'est la même réalité dans le mystère de l'Eucharistie. Et nous sommes invités à entendre Marie qui nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Voilà. Marie est debout au pied de la croix, je l'ai dit. Et donc, elle nous accompagne. Marie est la première adoratrice, dans le mystère de Noël en particulier. C'est elle qui adore de manière plus pure, elle peut nous aider. Et puis enfin, le Magnificat de Marie.
Déjà, nous demande si vous puissiez
donc je vais terminer de toute façon. Donc, dans le Magnificat de Marie, eh bien, Magnificat est une action de grâce, c'est le résumé de la spiritualité de Marie, et le Magnificat est une belle expérience pour comprendre l'Eucharistie. Il nous est dit, entre autres, elle élève les humbles, les merveilles de Dieu, elle nous est dit déjà les merveilles de Dieu dans l'histoire du salut, et que Dieu fait chuter les puissants et élève les humbles. Et c'est vrai que le corps et le sang du Christ dans l'Eucharistie, le mystère de l'Eucharistie, fait chuter les puissants et les savants, beaucoup, et élève les humbles, car les gens simples, les gens qui acceptent d'être comme des enfants, eh bien, eux arrivent à aller jusqu'à ce mystère même de l'Eucharistie et sont élevés par le fait même. Voilà, je vais m'arrêter là, puisqu'il est l'heure. Il est même l'heure bien passée, ouais.